Bonjour, je suis le Dr Claude Garceau de l'UICPQ. Bienvenue à cette série de balado-diffusion sur le traitement des lipides en primaire. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de recevoir un personnage public bien connu, Paul Poirier, qui s'occupe de prévention cardiovasculaire qui est impliqué. Alors Paul, pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes la bonne personne pour nous parler de stratégie, de traitement et de prise en charge?
Bien, je suis la bonne personne parce que je suis un cardiologue à l'UICPQ qui travaille avec toi. Je suis dans la prévention cardiovasculaire depuis des années et je fais partie des guidelines de lipides canadiens depuis au moins les deux ou trois dernières moutures. Alors j'ai vu l'évolution du traitement des lipides au Canada se forger à travers les documents.
Donc, on parle maintenant de seuil de traitement, de cible de traitement. Pouvez-vous nous discuter peut-être des seuils de traitement en prévention secondaire, puis pourquoi c'est si difficile de les atteindre?
Là, il faut comprendre que nous, on est allé, contrairement aux Américains et aux Européens, on ne vise pas des cibles. On regarde le chiffre de nos lipides, et là, il y a un seuil où il faut réagir. Parce qu'avant, on disait, ah, je suis pas loin de mon 2 ou de mon 1.8, puis là, good enough, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Là, on a dit non. Si tu es à 2.1, puis ta cible est à 2, il faut que tu réagisses. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le seuil. C'est comme quand vous êtes en automobile. Si vous roulez à 100 km/h, puis c'est une zone à 90, bien, vous avez brisé le seuil, puis vous allez vous faire arrêter. Il y a une conséquence à ça. Donc, il y a une conséquence à agir pour les lipides. La problématique, c'est que là, les gens, ils ont un trou, il y a une inertie. Et il faut vraiment viser en bas des seuils qu'on a déterminés en prévention secondaire.
Donc moi, ce que je disais il y a quelques années, c'est qu'on ne traite pas un chiffre, on traite un risque résiduel ou permanent chez notre patient. Donc ce n'est pas le chiffre qui est important, c'est l'action qu'on va faire avec le choix de médicaments. Donc maintenant, on sait que les LDL sont quand même un déterminant important pour la progression de la maladie cardiovasculaire. Est-ce que tu peux me parler un peu du développement et de la présence des plaques athéromateuses qui jouent un rôle important dans la progression de la maladie? Comment on peut prévenir leur accumulation?
Oui, ça c'est une question super importante parce que depuis des dizaines d'années, on a focusé sur les LDL. On s'est aperçu qu'il y a des LDL qui sont plus mauvais, plus méchants que d'autres LDL. Et pour mesurer, quantifier cette malignité-là, c'est l'APOB qui est la meilleure mesure. Et là, l'APOB, au Québec, on est chanceux, est remboursée. À l'époque, quand on a fait les derniers guidelines, l'APOB n'était pas remboursée en Colombie-Britannique et en Ontario. Donc, on a sorti les non-HDL. Alors, si vous regardez les paramètres de prévention cardiovasculaire, le meilleur paramètre à regarder, c'est l'APOB. Deuxièmement, c'est le non-HDL. Troisièmement, c'est le LDL. Pourquoi? Parce que si j'ai deux tasses de bleuets, pour faire ma tarte, OK? Mais dans une tasse de bleuets, j'ai des bleuets des champs, puis dans une tasse de bleuets, j'ai des bleuets de jardin. J'ai deux tasses, mais je n'ai pas le même nombre de bleuets. Alors, dans des petits bleuets, comme des boules de pétanque dans les artères, ça brise les artères et ça s'accumule. Si j'ai des ballons de plage dans mes artères, pour la même grosseur, la même quantité, deux tasses, comme j'ai dit tantôt, ça ne brise pas les artères. Alors, c'est comme ça que ça s'accumule. Et pour s'accumuler, il faut que les particules soient petites et denses. Et quand ils sont petites et denses, on peut le quantifier, le mesurer avec l'APOB ou le non-HDL.
Donc l'APOB, l'avantage, c'est que ça montre le nombre de petites particules. C'est en relation directe avec le nombre de petites particules. Autre avantage, parfois, pour certains patients, c'est qu'on n'est pas obligé de faire le test à jeun, ce qui peut être limitant, pas toujours, mais pour certains de nos patients. Puis à certains endroits au Québec, on a la difficulté encore à avoir des prises de sang. Il faut vraiment se battre à chaque fois. Donc, une autre question qui vient à l'esprit, c'est que la non-atteinte des seuils, lorsqu'on a une difficulté à les atteindre, quelles sont les options de traitement?
Alors, première des choses, c'est qu'on vise la première ligne de traitement, c'est une statine à dose maximale tolérée. Et on viendra tantôt avec les effets secondaires puis comment contrecarrer les effets secondaires. Alors, il y a une séquence à ça. Après ça, vous allez rajouter de l'ésétrol. L'ésétrol, ce n'est pas un médicament qui est très puissant. Vous allez baisser votre cholestérol d'à peu près 18%. Okay? Fait qu'on peut déjà prévoir la réponse au traitement. Et si je suis encore au-dessus du seuil que je me suis fixé, là, à ce moment-là, vous avez deux options. Si je suis loin de mon seuil et que c'est le LDL ou l'APOB qu'on regarde, ou le non-HDL, c'est les inhibiteurs du PCSK9 ou les modulateurs du PCSK9. Si je ne suis pas très loin, et là, c'est les triglycérides qui me dérangent dans mon bilan lipidique, alors à ce moment-là, c'est le Vascepa qui est la thérapie qui est une alternative au PCSK9 dans les lignes directrices canadiennes.
Donc, c'est quand même intéressant, mais un des facteurs limitants, c'est que les gens ont peur de donner des grandes doses de statines. Puis je fais remarquer à nos auditeurs qu'aux États-Unis, au dernier congrès de l'ADA, on recommande d'emblée la double association ésétrol plus statine pour gagner du temps lorsqu'on sait qu'on n'obtiendra pas la cible avec notre traitement. Mais un des facteurs qui limite la plupart des traitants, c'est qu'ils ont peur des myalgies aux statines. Alors, quelle est ton approche de cardiologue avisé qui voit 1 million de patients par jour?
Mais c'est ça c'est ce qu'on ramasse, nous. Quand un patient a une procédure de revascularisation puis il sort de l'hôpital, il sort avec une dose de statine qui est maximale. Okay? Alors, à ce moment-là, on les ramasse en réadaptation à 4 à 6 semaines après l'événement, puis là, ils ont des myalgies. Alors, il y a plus d'effets secondaires avec les OR que les OR, les OL. Donc, Crestor, Lipitor, Mevacor, Zocor, il y a plus d'effets secondaires que les OL, Pravacol, Lescol. Alors, que vous suspendiez votre statine pendant 2 à 4 semaines, le patient n'en mourra pas, OK? Parce que la demi-vie des LDL, c'est 5 jours. Fait que ça, dans un mois, c'est pour ça qu'on fait les bilans à tous les mois, dans un mois, vous êtes revenu à un état de stabilité. Alors, si votre patient a des myalgies, vous n'êtes pas sûr si c'est ça ou c'est d'autres choses, arrêtez votre statine et reprenez-la à la moitié de la dose, la même statine. Et là, si vous avez encore fait l'effet, vous avez fait démontrer l'effet que c'est la statine, alors vous l'arrêtez votre statine, puis là, vous prenez un autre type de statine qui est Pravacol ou Lescol pour ne pas la nommer, et là, à ce moment-là, vous allez par étapes. Si ça, ça ne marche pas, mais là, vous embarquez les ésétrols. Pourquoi ça? Parce que ça va vous amener aux inhibiteurs de PCSK9. Et vous avez besoin de passer ces étapes-là pour avoir accès à cette molécule-là qui est un médicament d'exception.
Pour mes auditeurs aussi, l'an passé, ou il y a un an et demi, dans le New England, un nouveau composé va peut-être arriver sur le marché qui agit un peu comme les statines et qui... ne donne pas d'atteinte musculaire par un mécanisme dont je ne me souviens pas, là, mais de toute façon, il va être disponible. On en avait parlé lors de notre dernier podcast avec vous. On va vous revenir quand même en cours d'année. Puis un sujet qui a vraiment évolué, que je vois à l'hôpital en tant que dilettante, parce que tous mes patients sont cardiaques, je regarde les attitudes des gens changer, c'est la santé cardiovasculaire chez la femme. C'est un peu galvaudé, mais ça reste d'actualité. J'aimerais que tu nous parles un petit peu comment le fait d'être une femme impacte les facteurs de risque, ta prise en charge. Peut-être, c'est une question dont tu connais un peu l'aboutissant et le tenant, alors je te laisse développer.
Oui, la maladie cardiovasculaire chez la femme, ça nous a pété dans la face parce que les études de statine et les grandes études de cardiologie n'incluaient pas plus que 20 à 30% des femmes et souvent des femmes post-ménopausées. Alors, on avait l'habitude de dire que la femme était protégée par les hormones puis ça prenait 10 ans de ménopause pour rattraper le risque d'un homme. C'est de moins en moins vrai parce que les femmes sont de plus en plus sédentaires et les femmes développent de l'obésité abdominale beaucoup plus précocement qu'avant. Ça, c'est un facteur. L'autre facteur, c'est que les femmes développent des maladies coronariennes, des infarctus, sur des bris des plaques athérosclérotiques sans atteinte de cholestérol très important. On appelle ça une fissure coronarienne. Et ces gens-là, il ne faut pas les stenter, il ne faut pas faire de procédure parce que l'artère, elle est friable. Ça, c'est très propre à la femme. Et avant tout ça, ce qui est le plus important, quand on a fait les guidelines de lipides, on a argumenté un peu là-dessus. Parce qu'on sait que les femmes qui développent une complication de grossesse, donc une prééclampsie, un diabète, un bébé de petit poids, une mort intra-utérine, toutes des complications associées à la grossesse, c'est des complications vasculaires. Et on sait que ces femmes-là, 15 à 25 ans plus tard, sont plus à risque de faire un AVC ou un infarctus. On n'a pas dit en disant ça qu'il faut traiter une femme de 30 ans qui a fait une prééclampsie avec une statine. Ce n'est pas ça qu'on dit. C'est là qu'on a argumenté. c'est qu'on a dit qu'on a une belle occasion de faire de l'éducation médicale continue à ces femmes-là pour une prise en charge non pharmacologique de leur risque. Et c'est pour ça que dans les lignes directrices, on dit que ces femmes-là, qui sont en âge de procréer, qui ne sont pas ménopausées, devraient avoir un bilan lipidique. Ils sont en prévention primaire, mais ils devraient avoir un bilan lipidique pour savoir d'où on part, pour savoir mieux les traiter dans le futur.
Alors, je rappelle à mes auditeurs, parce que c'est un dialogue en direct, que le prochain podcast que je tourne, je le fais sur la dissection coronarienne, qui est une nouveauté qui m'est apparue dans le visage comme un 4x4, parce qu'on en voit quand même assez souvent à l'hôpital. Donc, on va avoir une experte qui va nous discuter un peu de la prise en charge différente. Et ce que j'avais appris, c'est que ça pouvait, parfois, chez les jeunes patientes, correspondre jusqu'à 30% de la maladie coronarienne, des événements aigus, ce qui est quand même considérable. Donc, j'espère que cette série de petites balados vous a éveillé. On sait que bientôt qu'il va y avoir un transfert des patients vers le pharmacien communautaire pour la prise en charge au sortir de l'hôpital. Donc, il y a sûrement énormément d'occasions d'éducation continue. Je vais prendre le moyen des podcasts pour satisfaire votre curiosité sur des sujets peut-être alternatifs, un peu très pertinents pour la prise en charge des lipides, mais qu'on ne voit pas généralement dans l'enseignement organisé. Et n'hésitez pas nous rejoindre pour nous transférer des questions ou d'autres idées de formation. Donc, merci beaucoup à mon invité et je vous convie, je suis Dr. Claude Gassot de l'UECPQ. Merci beaucoup donc à Paul Poirier et à tous les autres invités de cette série. Je vais vous rejoindre bientôt pour d'autres occasions de formation en lipides.